Il est 6h30 en temps universel, 7h30 à Kinshasa, le journal.
Afrique Soir sur RFI, Pierre Boudias.
Encore un an en RDC pour les casques bleus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge le mandat de la MONUSCO de 12 mois. Vote à l'unanimité des États membres qui s'inquiètent de la situation sécuritaire sur place. 24 opposants tchadiens libérés cette semaine. Des membres du Parti Socialiste Sans Frontières interpellés en février lors des événements qui avaient conduit à la mort de Yaya Diallo. Le PSF qui assure continuer de subir des intimidations. Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans la Corne de l'Afrique. Après Djibouti, le président français est attendu à Addis Abeba. Ce samedi, la question de la guerre au Soudan et de la mise en œuvre de l'accord de paix éthiopien seront notamment sur la table. Et puis, pas facile de se faire un nom quand on est rappeur indépendant en Côte d'Ivoire. Le dossier d'Afrique Matin suit ce samedi l'artiste Lisekai. Dans l'ombre des superstars du milieu, il bataille pour se faire une réputation, vous l'entendrez. La MONUSCO passera bien 2025 en RDC. Le mandat de la mission de paix des Nations Unies a été renouvelé d'un an la nuit dernière. Résultat d'un vote à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il intervient alors que les quelques 14 000 casques bleus principalement présents dans l'est du pays ont déjà débuté leur retrait à la demande de Kinshasa. RFI New York, Loubna Anaki.
La résolution du Conseil de sécurité a été adoptée à l'unanimité et prolonge le mandat de la force de maintien de la paix en RDC jusqu'au 20 décembre 2025. Lors de cette réunion hier, les membres du Conseil ont insisté sur leur inquiétude quant à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La RDC continue de souffrir de cycles de conflits et de violences persistantes de la part de groupes armés étrangers et nationaux. Peut-on notamment lire dans le texte de la résolution. Le Conseil s'inquiète également des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda que Kinshasa accuse de soutenir le M23. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO intervient alors que la force a entamé son désengagement du pays et s'est déjà retirée du sud Kivu. Un retrait réclamé par le gouvernement congolais qui avait demandé un départ rapide avant de plaider pour un désengagement graduel et coordonné. Au dernier des comptes, il restait 14 000 militaires et policiers sur le terrain dans le cadre de la MONUSCO. Cette année supplémentaire devrait permettre de mieux organiser leur départ, même si pour le moment, aucune date n'a été fixée pour un retrait total. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et c'est dans ce contexte que les forces armées congolaises et leur supplétif Fazalendo annoncent s'être retirés de la ville de Bingi, située à 150 km au nord de Goma, localité dont se sont emparés les rebelles du M23. La milice soutenue par le Rwanda poursuit donc sa progression dans le nord Kivu. Les FARDC indiquent s'être repliés pour protéger les populations civiles, tout en empêchant des tentatives de débordement. Elles assurent de leur détermination à reconquérir les zones récemment perdues. La conquête du pouvoir au menu du plus jeune parti d'opposition du Congo, Brazzaville. Créé en 2017, le mouvement républicain bouclait hier son tout premier congrès dans la capitale. Une réunion qui aura surtout permis de désigner le candidat du mouvement à la présidentielle de 2026, Destin Gavet, également confirmé comme dirigeant de la formation à Brazzaville, Loïcia Martial.
Au moins une cinquantaine de participants venus de tous les départements du Congo ont préparé à ce congrès de deux jours qui a mis en place un bureau politique, un conseil du parti et une commission de contrôle et d'évaluation. Destin Gavet a été élu président du parti dans une salle archi-comble, drapeau du Congo à la main, une écharpe aux couleurs du parti nouée autour du cou. Cet ingénieur pétrolier de 33 ans, ayant essentiellement roulé sa bosse dans le privé, a clairement affiché ses ambitions.
Donc nous jugeons qu'aujourd'hui, nous sommes assez prêts de compétir et surtout d'apporter une alternative au sommet de l'État, parce que vous savez qu'au Congo, rien ne marche aujourd'hui. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la catastrophe, vous le savez. Les populations n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, le système de santé est précaire, rien ne marche, les jeunes n'ont pas d'emploi.
Pour Destin Gavet, il est temps de changer la donne.
Donc aujourd'hui, il est question de refonder notre pays. Et on ne peut pas refonder un pays avec ceux qui ont échoué. Il faut une alternative. Et nous avons pris la résolution de sortir ce peuple du chaos auquel il se trouve aujourd'hui.
À moins de 2 ans de l'élection, Destin est le premier candidat déclaré. La constitution actuelle donne au président sortant, Denis Sassou Nguesso, plus de 80 ans, la possibilité de se présenter pour un dernier mandat en 2026. Loïcia Martial, Brazzaville. RFI.
Au Tchad, c'est le 29 décembre prochain que se tiendront les élections législatives et locales. Et à quelques jours du scrutin, 24 militants du parti d'opposition PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières, ont retrouvé leur liberté, ramenés à N'Djamena en provenance de la prison de Korotoro, établissement de haute sécurité où ils étaient détenus depuis leur arrestation. Ils ont été relâchés jeudi, des opposants interpellés fin février lors des événements qui avaient conduit à la mort de leur dirigeant, l'opposant Yahya Diallo. Ces libérations pourraient être un acte de décrispation alors que Mahamat Idriss Déby sera élevé aujourd'hui à la dignité de maréchal lors d'une cérémonie officielle. Néanmoins, pour le Parti Socialiste Sans Frontières, le pouvoir agit sous pression et les intimidations continuent. Précision, François Mazet.
C'est affaibli et nécessitant des consultations médicales que les 24 hommes ont retrouvé leurs proches après 9 mois à Korotoro. Les défenseurs des droits humains ont régulièrement alerté sur le cas des militants du PSF et c'est ce qui a permis leur libération, estime Mahamat Ousmane Adam, membre du Conseil National du Parti.
On n'a rien à voir avec le maréchal, on n'a rien à voir avec lui, c'est grâce à l'appui des partenaires internationaux, les organismes et l'Amnesty International. Ils sont sous pression et à pour cette raison qu'ils ont libéré.
Les membres du PSF continuent de dénoncer les intimidations. Si le chargé des finances Abakar Tourabi a été libéré en novembre après 9 mois de détention par les services de renseignement, le secrétaire général du parti Robert Gam est lui gardé au secret depuis fin septembre et le chargé de communication Évariste Gabnon vit caché depuis 10 jours et une agression présenté comme une tentative d'enlèvement. Il venait d'annoncer le boycott des législatives et de dénoncer l'utilisation frauduleuse du nom et du logo du parti par certains candidats. C'est ce que rappelle son camarade Mahamat Ousmane Adam.
À l'intérieur de Niamey, nous ne sommes pas en sécurité. Moi-même, j'ai été échappé à plusieurs reprises. Évariste même, il était victime. Nous sommes victimes parce qu'ils ont créé des gens parallèles. Ils ont présenté aux élections législatives au nom du parti et nous ne les connaissons pas.
Mahamat Ousmane Adam a lui-même quitté la capitale. Il dit vivre dans la clandestinité en province.
François Mazet. Le Tchad où la Cour suprême vient de donner raison aux médias en ligne du pays en grève depuis près de 2 semaines. Ils contestaient la décision de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel qui leur interdisait de produire et de diffuser des contenus audiovisuels. Décision qui prive les citoyens de leur droit à l'information. Selon la plus haute juridiction du pays, l'Association des médias en ligne du Tchad, qui regroupe une quarantaine de ces médias, s'est félicitée de cette suspension hier. Le Tchad, qu'on quittait 120 soldats français, premier contingent à plier bagages depuis que N'Djamena a mis fin aux accords sécuritaires avec Paris fin novembre. Une décision qui oblige la France à repenser son dispositif en Afrique. Emmanuel Macron est justement en déplacement sur le continent depuis hier. Il est à Djibouti où il a partagé le repas de Noël avec les 1500 militaires français présents sur place. Ce matin, le président doit s'entretenir avec son homologue djiboutien Ismail Omar Gel. Dans l'après-midi, le président français s'envolera pour Addis Abeba en Éthiopie pour une visite officielle de quelques heures. Au programme notamment un entretien et un dîner de travail avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le récit de Pierre Firsion.
Le président français sera reçu ce matin par son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Les deux hommes reviendront sur le renouvellement du traité de coopération en matière de défense, traité signé cet été et qui permet à Paris de prolonger son bail ici. Emmanuel Macron et Ismail Omar Guelleh, qui préside actuellement l'IGAD, aborderont également les sujets régionaux qui ne manquent pas. Il sera notamment question de la guerre au Soudan et de l'accord de paix annoncé entre la Somalie et l'Éthiopie. Un sujet d'importance que le président français abordera aussi quelques heures plus tard à Addis Abeba avec Abiy Ahmed, alors que le premier ministre éthiopien est attendu en Turquie pour finaliser cet accord. Outre les sujets régionaux et bilatéraux, les deux hommes parleront également de la situation en Éthiopie. 2 ans après la fin de la guerre au Tigré, Paris se dit attentif à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. Le président devrait, selon les mots employés par l'Élysée, encourager cette même dynamique de dialogue dans d'autres situations qui peuvent exister dans le pays, référence directe aux conflits en cours dans les régions Oromia et Amhara. Pierre Firsion, Djibouti. RFI.
Les Nations Unies se disent scandalisées par la mort de 3 de leurs employés au Soudan. Réaction hier du secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres après l'attaque des bureaux du programme alimentaire mondial à Yabous dans l'état du Nil bleu. Frappe aérienne menée jeudi est toujours non revendiquée. Le programme alimentaire mondial annonce son intention de poursuivre son travail dans le pays. Les Nations Unies demandent une enquête indépendante. RFI, il est 6h39 en temps universel, 9h39 à Antananarivo et peut-être une lueur d'espoir pour l'entreprise. l'ancien officier de gendarmerie français Paul Mayo Rafano Arana, ce citoyen franco-malgache détenu à Madagascar depuis juillet 2021. Il a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour tentative d'atteinte à la vie du chef de l'État. Une détention illicite selon un groupe de travail des Nations Unies qui assimile même cette dernière à de la torture. Les experts exigent désormais sa libération. Ils avaient été saisis par les avocats de Paul Mayo qui espèrent que la pression onusienne sera suivie des faits. Clara Gérard Rodriguez est l'une de ses avocates.
Ce que ça signifie concrètement, c'est que le groupe de travail demande à Madagascar, au gouvernement malgache, de libérer immédiatement M. Paul Mayo, de le remettre en liberté et de lui ouvrir le droit à obtenir une réparation, donc une indemnisation, une compensation financière pour le tort que lui a causé cette détention. Nous, aujourd'hui, on demande à la France d'intervenir parce que M. Paul Mayo est un citoyen français et donc la France doit le protéger comme elle protège l'ensemble de ses citoyens et appuyer auprès de Madagascar pour que cette décision soit respectée et que M. Paul Mayo soit libéré. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que Madagascar va ou non respecter cette décision, étant préciser que s'ils ne le respectent pas, ils se mettent en violation, Madagascar se mettrait en violation de ses engagements internationaux et de ses obligations envers les Nations Unies.
Propos accueillis par Wally Diallo. Et puis, tout autre chose pour finir, notre dossier culture nous emmène ce matin en Côte d'Ivoire avec une question: comment percer dans le rap quand on est jeune et qu'on n'a pas signé en maison de disque? C'est le défi de l'Escaille qui doit sortir sa nouvelle mixtape en début d'année prochaine à l'ombre des superstars Imra et Didi B. Le jeune chanteur commence à se tailler une réputation au-delà du hip-hop underground d'Abidjan. Pour cela, le rappeur indépendant du quartier d'Adjamé compte sur plusieurs atouts, Benoît Almeras.
Le Sky, c'est d'abord un rappeur marrant pour Gossou, étudiante.
Il est amusant parce qu'il raconte plein de bêtises, on va dire. Tous les jours, c'est ratata. Co, des sucs de mon vaca. T'as fait ouais, ta maman.
Sinon, tu es pas pour les grettes, tata.
Le chanteur s'est fait connaître à 17 ans grâce à son humour, mais derrière la blague, ce fils d'informaticien passe ses nuits en studio à composer sur son ordinateur.
Tu vois, il commence par la rythmique, après il met les claps.
Chaque matin, il vient m'asseoir au studio ici. Il a toujours envie de faire bidon. Après, il vient chanter dessus. C'est ici que je fais tout. C'est ici que je travaille, en fait.
À 22 ans maintenant, le rappeur a déjà sorti des dizaines de titres. Et depuis quelques mois, le Sky travaille avec Serge Benoît, la star du coupé décalé. Cette collaboration a déjà abouti avec une chanson comme Placali.
Placali, esos, plala, plala. Placali, esos, plala, plala. Tu voulais joy ton cala, cala.
Un virage sérieux, car le Sky va se produire le 8 février prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. 5000 places et peut-être une entrée dans la cour des grands. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Les clips de Le Sky qui cumulent aujourd'hui plus de 15 millions de vues rien que sur YouTube. Un succès que l'artiste indépendant doit notamment à son label, l'organisation. Le patron de l'organisation, Kofi Masta, est fier d'avoir fait émerger le jeune rappeur en dehors de tout plan de promotion traditionnel.
Je me suis toujours basé sur le modèle indépendant américain. Le plus important, c'est de créer une fanbase surtout. Quand tu marches dehors, tu vois tout le monde a un téléphone. Si on arrive à rentrer dans ce téléphone-là, on est en train de faire plus de dégâts que passer à la télé, à la radio. On a mis un numéro de téléphone dans la description Instagram de Le Sky. C'est-à-dire que les fans, ils viennent, ils découvrent le numéro, ils envoient un message et directement on les enregistre et on balance les vidéos, les contenus. Et ces personnes qui reçoivent ont l'opportunité de partager aussi à eux leurs contacts. Vous voyez, donc disons que chaque 20 000 contacts a deux contacts. Essayez de faire le calcul un peu. Quand on voit qu'on arrive à remplir des salles de concert que les artistes qui passent à la télé et à la radio n'arrivent pas à faire, mais bien sûr que c'est une grande fierté.
Le dossier d'Afrique Matin était signé Benoît Almeras. Il vient clôturer ce journal. La suite d'RFI Matin, c'est dans un instant avec Julien Coquel-Roem.